Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
Et pour cette édition de rentrée, la rédaction de RCF Pays d'Aude avec Nathalie Dessos et Jérôme Bozon vous propose un retour sur les inondations qui ont frappé l'Hérault la semaine dernière avec Radio Lodève.
La crise migratoire qui émeut l'Europe entière en passant par les Cévennes qui se mobilisent au micro de Radio Escapade. La sécurité en question dans le département de l'Hérault avec la récente visite du ministre de l'Intérieur. Propos recueillis par Radio Pays d'Hérault.
La gastronomie lozérienne avec la fête du roi des champignons, le CEP, présenté par 48FM Mende. La ville de Lodève et plusieurs communes du Lodévois-Larzac comme Le Puech, Saint-Étienne-de-Gourgas, Saint-Pierre-de-la-Fage ou encore La Vaquerie ont été touchés le week-end dernier par un épisode cévenol exceptionnel qui a fait de gros dégâts. Mais fort heureusement, pas de victimes. En quelques heures, des pluies torrentielles se sont abattues sur le secteur, causant d'énormes dégâts sur les routes, dans les bâtiments publics ou chez les particuliers. La 75 s'est même affaissée et a dû être coupée dans les deux sens à hauteur du bosque. Depuis, il faut parer au plus pressé et la solidarité s'organise. Ce que nous expliquait ce jeudi matin le maire de Lodève, Marie-Christine Bousquet.
Lodève et le Lodévois-Larzac ont été très touchés, mais pour autant, il y a une mobilisation exceptionnelle qui s'est mise en place. Et c'est vrai que Lodève a été très soutenue. Donc nous avons eu dès lundi des moyens très très forts du conseil départemental. Donc il y a aujourd'hui plus d'une dizaine d'équipes de sapeurs forestiers qui sont sur l'Odève, sur le Puech, sur Saint-Étienne-de-Gourgas, sur Saint-Maurice-Navacelles, ils sont venus du Gard, ceux-là, sur Parlage. On a bien évidemment le service des routes qui est à nos côtés et on essaie de bien se coordonner pour pallier à toutes les situations. De très très nombreuses communes nous ont proposé de l'aide. Donc aujourd'hui, la ville a changé quand même de visage depuis lundi. Il y a eu un travail très très important de fait, mais grâce à l'aide de la communauté de communes de la Domitienne, à la ville de Cazouls-lès-Béziers, on a eu des salariés de la ville de Plessant, on a eu la ville de Canet. Je peux peut-être pas les citer toutes, mais les communes ont été très très nombreuses à vouloir nous apporter de l'aide. Je ferai appel à d'autres communes la semaine prochaine, mais grâce à cette aide-là, petit à petit, la vie à Lodève a repris son cours de manière à peu près normale. Il nous reste un point noir à régler, c'est sur la route du Puech, où on a encore des habitants qui sont isolés parce que sur cette route du Puech qui s'est affaissée, il y a la haute tension, la moyenne tension. Donc aujourd'hui, il y a un travail qui est fait, une réunion avec tous les concessionnaires de la voie. Il y a encore des problématiques d'accès, donc pour ces gens route du Puech, mais aussi sur Saint-Étienne-le-Gourgas, où il y a des difficultés, il y a quatre familles qui n'ont pas encore pu non plus sortir de chez elles. Il y a quelques difficultés comme ça, mais ça devient maintenant plus rare. L'électricité a été rétablie à peu près partout.
Et puis il y a la 75 aussi avec la traversée de l'Odève hein, qui sera solutionnée vraiment très très vite maintenant.
Bien écoutez, dès lundi matin, on a bien vu que la déviation dans l'Odève, ce n'était pas pensable. Donc la déviation qui s'est mise en place dans le sens sud-nord a été opérationnelle quasiment de suite, dès mardi. Et là, dans le sens nord-sud, il y a une solution qui est en train d'être conçu. Donc on est en train de bâtir un giratoire au sud de l'Odève à hauteur de la zone du Capitoule pour permettre donc à la circulation descendante de sortir du tunnel là. Elle va quitter, après l'Odève, elle va prendre la contre-allée, la RED, l'ancienne 609, la RED 609, et elle retrouvera l'autoroute après Cartel.
La population, les élus, tout le monde a vécu un véritable traumatisme. Il y a toute cette solidarité qui, moralement, vous l'avez dit, fait beaucoup de bien.
Alors, je pense que oui, ça fait du bien. Et puis, le message que je voudrais faire passer, c'est que Lodève, c'est une ville qui est debout, une ville qui se bat. On s'en relèvera et on se bat. Moi, je n'ai pas remis mes rendez-vous de cette semaine dès lors qu'ils portaient sur des projets qui pouvaient amener à l'ODEV. Donc, j'avais un rendez-vous avec un organisme qui est une filiale de la Caisse des dépôts pour le soutien aux commerçants des cœurs de ville. J'avais un rendez-vous avec la Chambre des métiers pour un CFA, une des sections de CFA à l'ODEV dès 2016. J'ai tenu aussi ce rendez-vous. Voilà, ce que je veux dire aux Lodévois, c'est que oui, il faut gérer la crise, oui, il faut gérer les situations sur le terrain, mais non, il faut baisser les bras sur rien et il faut se battre et montrer que l'ODEV, c'est une ville solidaire et une ville debout.
Particulièrement impacté, l'hôpital de l'ODEV inondé lui aussi, le directeur Patrick Trière.
Bien que l'hôpital n'ait jamais arrêté de fonctionner, nous avons bien avancé sur la remise en route et en fonctionnement à la fois des équipements sensibles qui ont été touchés dans l'établissement pour arriver à un fonctionnement aujourd'hui quasi normal, même si les dégâts sont lourds et les petits problèmes vont encore survenir les jours suivants. Ce qu'il faut retenir de cette situation, c'est qu'effectivement, la sécurité des patients et la qualité des soins a toujours été maintenue. Grâce à qui ? Grâce, bien sûr, dans un premier temps, à la disponibilité des professionnels. Ça, je tiens à le souligner parce qu'il y a une solidarité. J'ai jamais, rarement, de soucis sur la solidarité de la communauté hospitalière, mais là, ça faisait vraiment plaisir à voir. Ensuite, effectivement, qu'est-ce qu'il a fallu faire dans la nuit ? Ça a été les opérations de pompage massives, puisqu'il y avait 1,60 m d'eau dans tout le sous-sol de l'hôpital, dans lequel sont situés des points sensibles de fonctionnement, c'est-à-dire des points de logistique, notamment nos 10 ascenseurs sur les 10 étaient en panne. Et ensuite, nous avions la chaudière qui s'était mis en arrêt sécurité. Nous avions une partie du dispositif du système d'information, c'est-à-dire l'informatique, qui était à genoux. Et nous avions aussi tout notre système de détection incendie qui était arrêté. Donc des points névralgiques qu'il a fallu effectivement régler dès le lendemain matin. Et je ne vous parle pas de la cuisine dans laquelle il y avait également 40 cm d'eau et la buanderie. Donc tous ces dispositifs dans le cadre de notre cellule de crise ont été réamorcés dès le dimanche matin, c'est-à-dire le lendemain, à l'aube. Et nous avons continué à assurer les soins. Je voudrais souligner également l'implication, et au risque d'en oublier, des pompiers, 8 motopompes. Ils ont asséché le sous-sol de l'hôpital en 12 heures de temps. C'est un véritable record. Donc merci aux pompiers, merci aux sapeurs forestiers qui sont venus nous nettoyer les abords de l'hôpital, qui ont fait un gros travail. Merci aux bénévoles de l'ODEV qui se sont présentés spontanément dans l'établissement et qui ont travaillé 48 heures à nos côtés. Et un grand merci également à la Croix-Rouge qui a mobilisé 20 personnes sur 2 jours pour décrasser l'hôpital.
Et grâce à tout cela, la situation revient progressivement à la normale à l'hôpital de l'ODEV, un établissement qui en revanche va rester, et ce pour quelque temps, privé de son service radiologie imagerie.
L'hôpital fonctionne quasiment en mode normal, sauf effectivement l'imagerie médicale, puisque l'ensemble des équipements, échographes, scanners et tables de radiologie sont définitivement hors service. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à envisager le remplacement de ces équipements. Sous quel mode ? Ça reste à déterminer, mais nous y travaillons d'ores et déjà pour qu'effectivement le service d'imagerie médicale puisse repartir au plus tôt, mais ça prendra du temps, puisque ce sont des dispositifs coûteux, difficiles à installer, avec des réglages préalables importants et des feux verts des autorités de contrôle, notamment l'autorité de sûreté nucléaire. Donc on ne va pas confondre non plus vitesse et précipitation. On va dire qu'aujourd'hui, à l'hôpital, tout fonctionne, sauf le service d'imagerie. Le cap s'est ouvert depuis quelques minutes, puisque nous avons fait passer le message au centre 15 et au centre de secours principaux du département, comme quoi le dispositif était ouvert depuis 11 heures. Donc le CAPS fonctionne comme auparavant, sans imagerie médicale, puisque l'imagerie médicale, elle, reste encore fermée.
C'est le message qu'on peut faire passer aux gens. Le centre d'accueil de permanence des soins est à nouveau réouvert à l'hôpital de l'ODEV.
Voilà, il est à nouveau fonctionnel de la même manière qu'il fonctionnait antérieurement aux inondations, c'est-à-dire ouvert de 0h à 0h, 7 jours sur 7, H24.
Un sujet réalisé par Alain Mendes de Radio l'ODEV.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Les communes du Vigan et de Saint-Hilaire-de-Brethmas dans les Cévennes n'ont pas attendu le choc de la photo d'Elan, ce réfugié kurde de 3 ans retrouvé noyé sur une plage de Turquie, pour s'engager dans une démarche d'accueil des réfugiés. Au Vigan, proposé par son maire Éric Doulcier, le conseil municipal a adopté à l'unanimité le 25 juin dernier la délibération d'accueillir 3 familles de réfugiés dans des logements de la ville. Éric Doulcier.
Ça a été voté fin juin, mais c'était une décision que j'avais prise déjà un peu auparavant, suite à une rencontre, donc au printemps, ça devait être au mois d'avril, avec le groupe local d'Amnesty, avec qui nous avions discuté des préoccupations d'Amnesty par rapport aux réfugiés et à la catastrophe annoncée. Quoi. Et puis on voyait bien déjà, hein, c'est pas nouveau, ça fait déjà quelques années qu'il y a quand même des événements dramatiques en Méditerranée. Il fallait se positionner là-dessus et exprimer sa solidarité. Donc on a un conseil municipal en gros tous les 3 mois, et à ce moment-là j'ai décidé de le présenter en conseil municipal. Je aurais pu ne pas le présenter en conseil municipal et mettre à disposition les logements comme ça, mais j'ai tenu à ce que le conseil municipal débatte, soit informé, comment dire, se préoccupe de cette question. Il y a eu une discussion, mais pas très 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 longue. Je crois que l'ensemble des conseillers, donc opposition compris, a voté cette délibération, voilà, à l'unanimité de l'ensemble des présents ce soir-là. Je dois dire que c'était rassurant, c'était réconfortant. Et aussi, comme je leur ai dit, ça s'inscrit dans une longue tradition cévenole, hein, Cévennes, terre de refuge, c'est le titre d'un livre d'histoire sur les Cévennes prestigieux. Ça fait partie de notre histoire, de notre mémoire. Et je crois qu'il y a des moments où il faut être digne de cette histoire. Et c'était un de ces moments, voilà. Et en même temps, à aucun moment, je n'avais imaginé que cela puisse devenir un événement un peu médiatique pour la commune. Pour moi, c'était une décision, comment dire, ordinaire, normale, qui était évidente. On avait des logements de disponibles, il y avait une détresse, il y avait un appel, il y avait un travail, et je les en remercie, qui était fait par Amnesty, c'est-à-dire de sensibilisation. Tout ça mis ensemble, voilà, ça a donné cette délibération.
À l'origine de cet engagement, le groupe local d'Amnesty International, qui a fait la démarche de contacter les communes de son secteur pour l'accueil des réfugiés les plus vulnérables, recensés par le Haut Commissariat aux réfugiés. Clémence Boisson, d'Amnesty Sud Cévennes.
On a eu une victoire, c'est que parmi toutes nos rencontres dans les communes, on a la mairie du Vigan, le maire du Vigan et son conseil municipal qui ont souhaité nous suivre et qui ont voté la mise à disposition de 3 logements. Oui, même Amnesty France a reconnu cette décision. Le tissu associatif et les personnes volontaires vont être mobilisées sur le pays viganais. La commune met à disposition ses logements et Amnesty, on s'engage un peu à fédérer aussi toutes les bonnes volontés qui voudraient accueillir ces réfugiés, les aider, peut-être donner éventuellement certains équipements ou certains, peut-être des vêtements, des choses. On ne sait pas encore en fait ce dont ils auront besoin. Mais on va essayer de rassembler toutes les bonnes volontés autour de l'accueil des réfugiés. On a des propositions de dons, d'objets, mais aussi de cours de français, d'alphabétisation, aide administrative, bien sûr, même si normalement ils seront accompagnés par des associations nationales.
À Saint-Hilaire-de-Bretmas, dans les environs d'Alès, sous la sollicitation d'Amnesty International et du Secours catholique, le conseil municipal s'est prononcé pour l'accueil de 2 familles de réfugiés lors de sa séance du 23 juin. Elle devait s'installer dans des logements sociaux tout juste construits sur la commune, mais l'action du préfet du Gard et du bailleur social sont venues entraver cette volonté. Jean-Michel Perret, le maire de la commune, s'exprime en faveur de l'accueil.
Les maires qui sont réticents à l'accueil, on peut comprendre par rapport aux inquiétudes de la population qui, effectivement, bien souvent d'ailleurs, ces inquiétudes sont alimentées par les discours extrêmes, hein, qui lancent des anathèmes sur toujours la peur de l'autre, toujours la peur de l'étranger. Et en fait, quand on regarde l'histoire française, elle a toujours été enrichie justement des apports de populations extérieures de partout, de tous les pays, de toutes les tribus, même si on remonte bien avant l'Antiquité. C'est l'histoire de l'humanité, tout simplement. Et les êtres humains se sont toujours déplacés à travers la planète, ils ont toujours, entre guillemets, migré. Celui qui ne va pas vers l'autre et qui se replie dans sa grotte, de toute façon, dépérit d'une manière générale. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il faut que nous, en tant que responsables politiques, on ait à l'esprit toujours ce message à faire passer aux personnes qui, on va dire, par nature, ont toujours un peu une appréhension de l'inconnu. Je voulais ajouter que lors de la réunion à Paris, donc en présence du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre, on a eu droit à une intervention qui d'ailleurs a été largement et copieusement huée par un maire du Gard, le maire de Beaucaire en l'occurrence, qui en fin de compte n'a fait ça que pour faire un coup médiatique, et ça se résume à ça. Mais en attendant, ce que je voudrais surtout affirmer et réaffirmer au vu des relations que j'ai quand même avec de nombreux maires dans le département, et je vois d'ailleurs à travers tous les soutiens que j'ai reçus de leur part, le Gard ne saurait se résumer en tout cas à la position d'un maire d'extrême droite Front National à Beaucaire.
D'autres communes du Gard s'engagent dans des démarches d'accueil, comme la Grand-Combe, Mandagou ou encore Sandras. Un sujet de Pierre Isnard-Dupuis, Radio Escapade.
Le ministre de l'Intérieur en visite officielle en fin de semaine dernière dans le département de l'Hérault. Passage express de Bernard Cazeneuve, d'abord au commissariat central d'Agde, et puis une halte plus longue chez les gendarmes de Pézenas. RPH était présent lors du déplacement du ministre, qui a notamment évoqué les effectifs des forces de l'ordre tout en égratignant la politique de Nicolas Sarkozy sur la période de 2007 à 2012. Mais d'abord, pourquoi venir à Pézenas et Agde, le ministre de l'Intérieur ?
Bon, d'abord, je suis venu rencontrer les policiers d'Agde, les gendarmes de Pézenas. Pourquoi ? Parce que la préoccupation qui est la mienne, c'est que la sécurité soit possible par une mobilisation forte de la gendarmerie et de la police nationale en tout point du territoire. Et il y a ici une mobilisation très forte de la gendarmerie, notamment dans le domaine de la lutte contre les cambriolages et contre toutes les formes d'atteinte aux biens, avec des résultats très spectaculaires qui ont été constatés au cours des derniers mois, puisque nous avons une diminution à deux chiffres des cambriolages de plus de 15-20%, ce qui est considérable, avec le démantèlement de filières d'acteurs qui intervenaient non seulement sur le territoire, mais également dans d'autres départements, je pense au département du Gard, au département du Vaucluse. Et quand on démantèle une filière ici à Pézenas, grâce à l'efficacité des forces de gendarmerie, c'est la tranquillité qu'on apporte à tous ceux qui ont été frappés par ces filières et qui étaient bien au-delà du département de l'Hérault. Donc je suis venu adresser mes félicitations à une équipe qui est engagée, qui est parfaitement organisée. Donc c'est un travail très remarquable qui mérite d'être encouragé et qui donne de très bons résultats.
Alors parfois les forces de l'ordre se pleines de sous-effectifs pour pouvoir exercer leur métier dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez pu leur apporter des réponses en ce sens ?
Bon, d'abord, je comprends que les forces de l'ordre se plaignent de sous-effectifs puisqu'on a supprimé 13 000 emplois dans la police et la gendarmerie entre 2007 et 2012. Donc ça ne peut pas ne pas se voir. Nous créons 500 emplois par an chaque année depuis 2012 qui se répartissent entre la police et la gendarmerie. Et comme vous le savez, j'ai souhaité que cet effort soit accompagné d'une augmentation des crédits de fonctionnement hors personnel. Et puis le Premier ministre a souhaité au mois de janvier dernier, sur la base des propositions que je lui avais adressées, qu'on augmente considérablement les moyens des services de renseignement, et y compris les services du renseignement territorial, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et ce sont 1500 emplois sur 3 ans qui sont créés, près de 263 millions d'euros qui sont mobilisés pour moderniser les moyens de la police nationale et de la gendarmerie. Et bref, nous créons beaucoup d'emplois depuis 2012. Et vous voyez, j'ai été obligé de mobiliser des unités de force mobile à la fois pour la lutte contre le terrorisme et dans le cadre de la maîtrise des flux migratoires. Et quand on a supprimé 15 unités de force mobile, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 15 entre 2007 et 2012, et qu'il faut faire face à une telle charge de travail, ça implique beaucoup de tensions dans les organisations. Donc je comprends qu'il y ait des interrogations, mais en même temps, moi je me bats budget après budget pour que là où il y ait des interrogations, il y ait des moyens. Je ne vous dis pas que ce n'est pas facile, je ne vous dis pas que le combat est mené avec toujours beaucoup de sérénité, mais il est souvent gagné.
Les propos du ministre de l'Intérieur ont été recueillis par Adrien Delgrange de RPH à la gendarmerie de Pézenas. Bernard Cazeneuve a ensuite rallié Montpellier pour un discours de clôture au Congrès national du syndicat Unité SGP Police.
Le week-end du 2 et 3 octobre, Mende, la ville-préfecture de Lozère, fête le roi des champignons avec sa manifestation annuelle, les toquets du CEP. Alors si durant ces deux jours, de nombreuses animations seront proposées, l'événement sera incontestablement la venue de Simone Cantafio pour des ateliers gastronomiques. Simone Cantafio va prendre début novembre la tête du restaurant étoilé de Michel Bras à Toya, au Japon. Il proposera ainsi des ateliers gratuits pendant les deux jours pour apprendre à tout un chacun à cuisiner le CEP. Sur son parcours, sa cuisine, sur le CEP, il s'est confié à Ludovic Terol de 48 FM.
J'ai commencé mon parcours en Italie parce que je suis italien, j'habite à côté de Milan. J'ai fait l'école hôtelière pendant 5 ans. Et après, j'ai eu la chance de rentrer dans les plus grands cuisiniers italiens. C'est Gualtiero Marchesi, c'était les premiers 3 étoiles en Italie. Et j'ai fait 3 ans chez lui, j'ai fait un peu tous les postes en cuisine. Et après, à bout de 3 ans, lui, il m'a dit, bon, Simone, il faut apprendre la rigueur, il faut apprendre la cuisine des grands restaurants et tout ça. Et alors, il m'a dit, c'est le moment d'aller en France. Il m'a dit, bon, on appelle chez Georges Blanc à Vona et ça sera là que tu vas commencer à avoir une grande brigade. J'arrivais chez Georges Blanc quand j'étais encore 21 ans, j'étais commis. Et après, j'ai resté chez Georges Blanc pendant un an et demi. À partir de ça, mon rêve, il était toujours à la maison Brasse à l'Aïole. Parce que bon, Michel et Sébastien, c'est un peu les rêves de tous les cuisiniers. Et j'ai demandé un jour à Monsieur Blanc, est-ce que c'est possible d'être cuisinier là-bas? Il m'a dit, oui, tu as fait un an et demi chez nous, bien, tu as bien bossé et tout, on les appelle. Et voilà, c'est pour ça que j'ai passé après un an et demi chez Georges Blanc, chez Brasse. Et là, j'arrivais en tant que troisième chef de partie. Et à petit, au début, j'avais dit, bon, je resterai en saison. Et ce n'était pas ça, parce que, bon, après une saison, c'était 2, 3, 4. Et au bout de la quatrième saison, Sébastien Michel m'a appelé au bureau. Ils m'ont dit, Simone, est-ce que tu veux prendre la direction du restaurant au Japon en 2015? Et moi, j'ai dit, oui, avec plaisir. Ça, c'est un rêve encore plus grand. Et voilà, là on a commencé un parcours, j'ai voyagé un peu en Australie, en Angleterre, où j'étais chef dans un relais château. J'ai appris l'anglais et là je suis là à l'Aïole pour quelques mois, pour bien rester à côté de Seba et de Michel, pour bien reprendre un peu l'esprit Brasse. Et le 2 novembre, je vais commencer l'aventure au Japon en tant que directeur du restaurant Michel Brasse à Toya.
Comment vous êtes arrivé ici en Lozère pour ces toquets du CEP?
Moi, j'étais en Angleterre cet été. Sébastien qui m'a appelé, il m'a dit, bon, Simone, il y a les toquets du CEP les mois d'octobre à Lozère. Il m'a dit, ça me ferait plaisir si toi, tu vas te nous couper tout ça, tu vas présenter un peu la maison Brasse et tout. Ça va te donner la possibilité aussi de te présenter en tant que futur chef du Japon et tout ça. Et ça sera un peu les premières expériences d'avoir un public un peu plus grand et tout. Alors moi, j'ai dit, c'est bon, de suite, oui. Je vois la maison Brasse un peu comme ma deuxième maison. Et alors, tout ce qui se bat me propose et tout, je les vois pas comme un boulot, mais je les vois comme quelque chose pour me faire évoluer pour, en tant que cuisinier, mais en tant qu'homme aussi. Et là, je vois qu'il y a vraiment une ambiance, il y a de l'organisation surtout, parce que des fois... on fait des choses où il n'y a pas d'organisation et tout ça. Et là, je vois vraiment qu'il y a une super organisation. Et je vois surtout qu'il y a une ambiance très chaleureuse et tout. Et alors là, je veux voir vraiment les 2 et les 3 octobre ici avec tout le monde. Quoi.
Quelques mots sur le CEP.
C'est un produit... moi, je suis très attaché parce que je viens de Milan. Bon, dans mon enfance et tout, risotto au CEP, ma mère, c'était un peu ça qu'on mangeait les dimanches et tout. Quand j'ai rentré dans les grandes cuisines et tout, je voyais que les cèpes et les champignons en général, ça prend vraiment beaucoup de place parce qu'on peut l'utiliser à 360 degrés. Quoi. En cru, avec du vinaigre, cuit, à la rôtissoire, c'est vraiment un élément qu'il peut facilement remplacer de la viande ou du poisson et on peut l'utiliser comme élément principal et travailler autour du cèpe. Et la recette qu'on va proposer ici dans quelques jours, ça sera une recette où il y aura la cèpe au mieux d'une assiette avec un esprit très personnalisé sur la cèpe et quelque chose pour faire plaisir, mais quelque chose pour rester simple, que les gens puissent reproduire ça à la maison.
Et l'ensemble des animations proposées pendant ces deux jours de la fête, les toquets du CEP, seront gratuites. Plus de renseignements sur le site mende.fr.
Ce carnet de région est maintenant terminé. Vous avez pu le suivre avec Nathalie et Jérôme de RCF Pays d'Aude.
Nous vous souhaitons tous une bonne semaine.